C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle semaine débute et nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Nous avons été témoins ce week-end d'un événement exceptionnel, un phénomène paranormal.
Au-delà des dimensions classiques où l'homme projette ses pas, il en est une où s'échappent ses pensées les plus folles. Sublimant l'imagination, faisant éclater le rationnel, nous l'appellerons simplement la quatrième dimension.
La quatrième dimension, c'est celle où le Stade Rennais gagne quelque chose. Oui, vous ne rêvez pas, le Stade Rennais, j'ai bien dit le Stade Rennais, qui gagne quelque chose, et même la Coupe de France, s'il vous plaît, et pas de n'importe quelle manière. Comment dit-on remontada en breton? Je ne sais pas. Je sais simplement que samedi, les Rouges et Noirs ont joué un bien mauvais tour au Paris Saint-Germain, l'inénarrable PSG, sur lequel il y aura beaucoup de choses à dire d'ici quelques minutes. Les griffes de Naïm Moniol sont de sortie. Bonjour Naïm.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Elles sont acérées, elles sont prêtes.
Ce qui s'est passé ce week-end a même décoiffé Hervé Penaud, c'est vous dire si c'est exceptionnel. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous tous, quel plaisir. C'est vrai que ça, c'est très décoiffant.
Oui, mais bon, vous avez toujours un peigne sur vous pour remettre les cheveux.
C'est impeccable.
Bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour à tous, bonjour Hugo.
La Coupe, mais également la Ligue 1 au sommaire de Radio Foot. La course à l'Europe bat son plein dans le championnat de France. Les supporters de l'OM se sont probablement réjouis de voir le rival parisien s'écrouler samedi, mais ils ont déchanté hier. Alors dans un souci d'équilibre, nous dirons aussi du mal de Marseille tout à l'heure. Et puis au programme également du football africain, notamment la CAN des moins de 17 ans, remportée par des Lionceaux, ceux indomptables du Cameroun. Radio Foot, c'est le coup d'envoi.
Il cherche Daniel Alves, quel but! Quel but de Daniel Alves! C'est l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Contre pour les Parisiens avec Daniel Alves, Mbappé, Maria Neymar face à Koubek. Le ballon piqué, le deuxième but parisien. Superbe.
Il y a des jeunes joueurs qui semblent perdus. Ils devraient plus écouter que parler. Certains gars plus expérimentés parlent et eux, ils répondent, ou alors l'entraîneur parle et ils répondent également. Ce n'est pas une équipe qui ira loin.
Les Rennais sont mal et se réveillent, et ça c'est bon avec Amari Traoré. Il a du champ pour déborder côté droit. Amari Traoré qui entre dans la surface sur le très bon sens et le but. Cette finale de Coupe de France miraculeusement relancée.
Nous ne sommes pas attentifs, c'est toujours possible de perdre un match ou laisser l'autre sentir, oh, c'est possible ici. Parce que c'était possible de fermer 3-0, 4-0 et fermer. Non, on ne fait pas ça.
Corner, beauté par Clément. Grenier entre la tête, c'est le but, l'égalisation. On est cher, oui, c'est bien lui. Ce match est totalement relancé. Deux buts partout, consternation sur le banc parisien.
Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Il faut toujours respecter l'humain. Quand on respecte l'humain, ça se passe bien. Mais quand on ne respecte pas, à un moment donné, tu le payes. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais.
Séance de tir au but de très haut niveau. Alors là, c'est rare qu'on ait si peu de déchets dans une séance de tir au but.
Vous savez ce qu'on dit dans une séance de tir au but? Ne jamais se précipiter quand on se dirige vers le ballon, vers le point de pénalty. Christopher Koukou a eu une course trottinante. Christopher Koukou face à Thomas Koubek. C'est au-dessus! C'est au-dessus, c'est raté! Le Stade Rennais remporte la Coupe de France près de 50 ans après le dernier titre de l'histoire du club dans cette compétition.
Les Rennais ont fait le match parfait et ont su revenir dans la partie et profiter du relâchement des Parisiens. Donc là-dessus, voilà, bravo aux Rennais et les Parisiens. On est certainement à la fin d'un cycle.
Le constat d'échec, il est énorme là pour le Paris Saint-Germain. C'est une saison ratée, complètement. L'une des pires de l'ère qatarienne.
Ah ben c'est la pire.
C'est le cas, mesdames, messieurs, de l'édition 2019 de la Coupe de France. L'équipe.
Un excellent résumé d'une très grande soirée de football avec du Neymar, du Ben Arfa, du Rabé Sandratana et même du Thomas de Saint-Léger dedans. Résumé signé Laurent Salerno. Merci à lui, l'équipe de Rennes et ses quelques 30 000 supporters ont donc déjoué les pronostics. Samedi, les Bretons ont renversé le grand favori de la Coupe de France. Alors avant de vous défouler sur le Paris Saint-Germain, messieurs, vous allez me dire du bien du vainqueur de cette 102e édition, de ce qui est, on le rappelle, la coupe de tous les footballeurs français. J'ironisais sur la victoire de Rennes tout à l'heure. Là également, petit rappel, depuis plus de 20 ans, Hervé, je parle sous votre contrôle, vous avez travaillé, vous l'avez suivi de près ce stade Rennes.
Et je vous contrôle.
Il est aux mains depuis plus de 20 ans d'une famille riche, la famille Pinault, famille française, bretonne. Il a parfois été dépensier et ambitieux, ce stade rennais, mais il s'est surtout avéré un redoutable spécialiste de l'échec depuis 1998, des finales perdues, deux Coupes de France, face à Guingamp en 2009 et 2014. Guingamp, le voisin, le petit voisin breton. Finale de Coupe de la Ligue perdue également en 2013 contre Saint-Étienne. Voilà, enfin. Quel soulagement, c'était quand même un peu une anomalie dans le paysage du football français, ce club de Rennes, bien structuré, avec des moyens, mais qui ne gagnait jamais rien.
Oui, alors c'est vraiment le club qui faisait sourire tout le monde, hein, parce que à une époque, c'était une des blagues d'ailleurs, hein, de dire que c'était un club qui faisait l'ascenseur, qui allait en Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Surtout les défaites contre Guingamp avaient fait très très mal aux supporters. Et puis, il faut faire très attention, parce qu'on a l'impression, puisque la famille Pinault est aux manettes de ce club, il y a beaucoup d'argent, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'argent chez la famille Pinault. D'ailleurs, ils sont capables de leur donner un petit peu pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais ils ont toujours fait attention à pas dépenser trop dans ce club, sauf au tout départ où ils avaient fait des investissements avec Lucas, Tordo, des joueurs à l'époque à 15-20 millions d'euros, ce qui était énorme pour un club comme Rennes. Ça n'avait pas fonctionné. Donc ils se sont dit, bon, on va gérer ça en père de famille, j'allais dire. Donc d'une certaine manière, les résultats étaient assez logiques par rapport aux investissements accumulés ces dernières années. Mais là, cette année, avec l'arrivée de l'étang, l'arrivée de Julien Stéphan, faudra dire un mot un peu sur l'entraîneur qui a un peu révolutionné tout ça, eh ben il se passe quelque chose. Et on a même la sensation, quand on voit la fierté de François Pinault, le père, après cette victoire, bah, qu'il serait peut-être d'accord pour rajouter un petit peu au pot.
On rappelle juste Naïm également l'excellent parcours en Ligue Europa, parcours historique, huitième de finale perdu contre Arsenal, en ayant quand même gagné 3-1 le match aller.
C'est-à-dire que Rennes, c'est la première fois depuis que Pinault est aux commandes qu'ils ont un président qui connaît le football, parce que Rebello,
Olivier Létang, voilà. Tout un symbole, ancien du PSG.
Ancien du PSG, parce que René Rebello, il connaissait que dalle, et puis il n'était pas non plus très intelligent dans sa com et cette espèce de vrai fausse arrivée de Courbis, ce moment de Montagnier, c'était quand même terrible. C'était pas un grand communicant et pas un grand fou, un grand connaisseur de football. Donc c'était un peu n'importe quoi. Là maintenant, avec les temps, il y a un type qui connaît un peu le foot, qui s'est structuré, qui vient du PSG. Donc même si son aventure s'est pas super bien terminée, il a quand même des compétences et un bagage avec lui. Il le met à Rennes. Et puis, on parlait de la nomination de Stéphan, un choix interne, là où on aurait pu aller prendre des entraîneurs plus expérimentés parce qu'il y en avait, de faire la promotion aussi des jeunes, de tenter des coups, Mbaye Niang, Ben Arfa, voilà, de tenter tout ça. Ils ont été intelligents et ça paye, bravo à eux.
Jean-Philippe Bouchard.
En fait, historiquement, la famille Pinault a toujours privilégié pour choisir ses présidents, ses dirigeants, la loyauté à l'actionnaire, plutôt que la connaissance du foot. Et on s'est retrouvé avec un certain nombre de présidents successifs. On a parlé de René Rebello, mais on a eu QF, on a eu des gens comme ça, qui étaient soit des banquiers, soit des gestionnaires, soit des anciens dirigeants de filiales
d'entreprises. Rebello est un ancien footballeur. Hein,
voilà. Mais qui n'avait pas une connaissance intime du football professionnel. Et il y a une grande nuance entre bien aimer le football ou être supporter d'un club et connaître les rouages d'un club professionnel, c'est très différent. Et effectivement, c'est la première fois là depuis 18 mois qu'on a à la fois un président qui connaît parfaitement le fonctionnement d'un grand club de football et qui connaît, qui a énormément de contacts, qui a été directeur sportif, qui a des contacts avec les agents, enfin qui vraiment maîtrise le milieu, et aussi, et là c'est un peu un coup de bol, c'est qu'il y avait Stéphan dans le club, dans l'effectif, et qu'il a, à la suite du licenciement de Lamouchi, il a été amené aux manettes, et là c'était la bonne bioche, et si j'ose dire, c'est la cerise sur le gâteau, parce que finalement la gestion sportive du club était en place déjà. Mais c'est récent dans l'histoire de Rennes. Auparavant, on savait pas très bien quel était le projet sportif de Rennes. Personne pouvait dire, il y avait pas de style de jeu, on savait pas trop ce qu'il voulait faire de ce club-là.
Alors, bon point pour Olivier Létang, le président, ancien directeur sportif du PSG. Bon point pour Julien Stéphan, peut-être la relève des entraîneurs français. Rennes, c'est aussi une terre d'accueil, entre guillemets, pour les internationaux africains qui ont brillé pour certains d'entre eux ce samedi. L'homme du match est-il africain, l'homme de cette finale de Coupe de France, selon vous?
Ah oui,
je pense à Mecher, par exemple, le Mozambique, en temps de l'égalisation.
Moi, le joueur que j'ai vraiment apprécié, c'est, enfin, il y en a plus d'un qui a été bon, notamment chez les joueurs africains, mais c'est Ben Sebaïni. Je trouve qu'il a fait un match phénoménal. C'est-à-dire que c'était pas facile au départ. Il a fallu un peu gérer son couloir. C'était assez compliqué. Mais alors, il n'a pas arrêté de monter, provoquer, de poser des problèmes aux Parisiens, de revenir après, défensivement. Il était là à l'impact, au contact. Moi, je l'ai trouvé très, très, très fort. À Marie Traoré aussi, mais s'il y avait un petit plus, j'aurais donné à Ben Sebaïni.
Donc, bon point pour les latéraux africains de Rennes. Les Sénégalais de l'attaque, Naïm Moniol, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang. Mbaye Niang qui sonne un petit peu la révolte, entre guillemets.
Il touche le poteau avant justement ce que j'ai aimé chez Mbaye Niang, c'est qu'on a souvent vu Mbaye Niang. Il a des qualités, il n'est pas très régulier, puis il a une vie privée qui fait qu'il n'est pas toujours très concentré sur le football. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et là, je trouve que sur ce match, on l'avait vu aussi contre Lyon. Et on l'a vu aussi parfois en championnat, même sur des défaites de Rennes. Je trouve qu'il a pris un rôle, il prend son rôle un peu au sérieux. Je trouve qu'on le voit rameuter un peu les troupes, on le voit se bagarrer, on le voit faire des choses qu'il faisait pas, par exemple, il y a un an ou deux quand il avait été prêté à Montpellier ou quand on le voyait en Italie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour lui, pour Rennes, pour le Sénégal, pour la CAN. Je crois qu'Mbaye Niang avait été très bon, que ce soit dans le jeu ou psychologiquement, même si moi, mon grand chouchou sur ce match, c'est Bourigeaud.
Mais il n'est pas international africain.
Mais ah, tu sais pas si Delors l'a fait avec l'Algérie, Bourigeaud peut se trouver une origine quelconque.
On naturalisé vite. On dit Delors un peu plus tard. Un autre Rennais évidemment qu'on a suivi de près, Ben Arfa, Jean-Philippe Bouchard, ancien Parisien, ancien placardisé du PSG, revanchard. On l'a entendu avoir des mots durs envers son ancien président.
Vous êtes des mots durs ou des mots justes?
On verra tout à l'heure.
C'est la classique. On voit ça souvent avec l'ancien joueur stratisé dans un club et puis qui marque au moment de la rencontre. C'est vraiment un classique.
Mais est-ce que là, il a été si bon que ça?
Il a pas été décisif dans ce match-là. C'est pas lui l'homme du match. Après, il a participé forcément avec son goût de revanche. Ça a joué énormément. Et je pense que le fait que pour les temps aussi, ce soit pas bien passé au PSG, ça a contribué parce que. Finalement, ce match, il est un peu à l'image de la saison rennaise, qui a pas été simple. Ils ont commencé très mal, ils étaient relégables un moment. Enfin,
ils n'ont pas gagné depuis deux mois en championnat.
Ils ont eu des matchs très durs. Ils ont eu des rencontres de coupe très compliquées.
Et Ben Arfa, il n'était pas toujours titulaire.
Voilà, donc ça n'a pas été une saison simple. Et le match, cette finale, elle commence très mal pour eux. Finalement, ils sont menés 2-0 au bout de 20 minutes, c'est ça?
Ouais.
Donc on a l'impression que le match est plié. Et ben non. Parce que justement, ils sont forgés à l'adversité, ils lâchent pas et ils reviennent. Et à l'inverse, le PSG lui est pas du tout préparé à l'adversité.
Alors justement, le PSG, d'abord la soirée de samedi, Hervé Penaud, vous voulez commencer par quoi? Les mauvais gestes d'humeur de Mbappé, de Neymar, le coaching de Tourelle, l'entrée en jeu de Paredes tout court, la faillite des leaders, la séance de tir au but, vous voulez commencer par quoi?
Paredes, c'est un épiphénomène, hein, parce que lui c'est le symbole simplement d'un recrutement totalement raté en décembre où vous étiez capable de mettre quasiment...
Entrée
50...
catastrophique samedi,
oui,
c'est pour ça
comme depuis qu'il est ici,
que je m'acharne.
Comme depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, et c'est pas complètement de sa faute parce qu'on l'a pris pour un rôle.
Alors on laisse de côté Paredes. C'est quoi le vrai point noir,
c'est plus qu'un point noir. Parce que quand vous connaissez le personnage, là, ce qui s'est passé, c'est-à-dire expulsion en fin de match, donc il va avoir automatiquement une sanction en championnat de France. Ça veut dire que tous les records qu'il rêvait d'obtenir en fin de saison, il ne les aura pas. Parce qu'avec un coup de chance, il peut prendre 3 matchs, un coup de malchance, 4 matchs, et s'il prend 3 ou 4 matchs, c'est râpé, il va rester à 30, et puis c'est terminé, il n'aura pas de match de championnat. Alors ce qu'il faut penser dans la psychologie de Mbappé, c'est que lui, il était obsédé par les records de cette fin de saison. Il était persuadé qu'il allait battre les records français, il pouvait mettre 36, 37, 38 buts, peut-être atteindre celui d'Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. Donc là, c'est râpé, il faut repasser la saison prochaine. Il n'est pas venu rechercher sa médaille, je crois. Donc tellement il était dégoûté. Ça prouve que c'était une forme de cassure avec cette saison-là. Donc lui, c'est un bon symbole, je trouve, de l'échec de ce Paris Saint-Germain, parce qu'à côté de ça, il a fait un match. Alors, intéressant.
Beaucoup d'occasions manquées.
Voilà, intéressant dans sa manière de se mettre en position de marquer, mais à côté de ça, beaucoup d'échecs.
C'est un match à la Mbappé.
Il n'est pas le seul responsable de l'échec.
Ah ben non, évidemment non, mais évidemment non.
Quels sont les autres points sur lesquels
je trouve ça intéressant son cas parce que on parle d'un joueur de 20 ans. Faut jamais oublier, même s'il est hyper doué, et dont on sait qu'il peut péter les plombs. On sait que ça lui arrive. C'est déjà arrivé et c'est une épée de Damoclès sur les matchs de Mbappé. Tous les adversaires le savent, ses coéquipiers le savent, ses entraîneurs le savent. On peut prendre un exemple. Je vous renvoie au match contre l'Uruguay à la Coupe du Monde où Mbappé est quand même a droit à un traitement de faveur par les Uruguayens qui savent très bien qu'il peut dégoupiller et que ça peut faire basculer le match. À un moment, il est au bord de dégoupiller. C'est la seule fois où Didier Deschamps rentre sur le terrain, ce qui est interdit, et tous ses coéquipiers viennent l'entourer immédiatement. Ce cas-là est géré lors de ce match-là. C'est-à-dire qu'on sait que Mbappé va avoir droit à un traitement de faveur et peut péter les plombs. Voilà. Là, cette gestion-là, elle a pas eu lieu pour cette finale. Mbappé a pas été super bon, il est frustré et ben voilà, il dégoupille, il commet un acte irréparable. Voilà, c'est
Dis cette gestion-là, elle a pas lieu, tu pensais à quoi? Tu pensais à le sortir?
Ben peut-être que
tu sors pas Mbappé dans une finale de Coupe de France quand tu viens de te faire rattraper deux buts, Jean-Philippe.
Alors, il faut l'accompagner, il faut jamais oublier qu'il a 20 ans.
Alors Jean-Philippe, je vais dans le sens de la question de Naïm, quel responsable?
Ben une équipe peut pas dépendre,
mais ceux qui sont cachés pendant la séance de tir au but.
Sur une finale comme ça, parce que cette finale-là, on en parlait un peu avant le début de l'émission, elle est à l'image de la saison. C'est-à-dire que tu vois un Paris très bon sur une mi-temps, qui domine, qui marque des buts fantastiques, et puis t'as une de défaillance individuelle, et derrière, patatras, le château de cartes s'écroule, psychologiquement, les types sont pas au niveau, l'entraîneur ne l'est pas haut non plus, et Tourelle va falloir en parler aussi, parce que pour beaucoup moins que ça, on a dessoudé Unai Emery.
Là, vous lui reprochez quoi, par exemple?
Je lui reproche depuis 6 mois d'être extrêmement nerveux en conférence de presse, je lui reproche d'avoir stigmatisé Antero Henrique, d'avoir mis les mots du PSG sur cette absence de milieu de terrain alors qu'il s'est fait éliminer par une bande de lycéens et qu'il a perdu contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Je lui reproche de ne pas trouver le ressort déjà pour lui-même se calmer. Comment un entraîneur qui n'est pas capable de garder son calme en conférence de presse peut aller prendre Neymar, peut prendre Mbappé, peut prendre Verratti et les recadrer et leur dire comment ça se fait que tu dis, voilà. Je lui reproche tout ça.
C'est exactement ça que je dis quand il n'est pas géré, effectivement.
Ah oui, ben après, il n'est pas géré. Sur ce club, tu n'as pas de vrai patron, c'est ça aussi le truc.
Jean-Philippe, juste un bref rappel. Eric Rabessandratana, on l'entendait tout à l'heure, nous confier après la rencontre qu'il s'agissait selon lui de la pire saison de l'ère qatarienne. L'ère qatarienne débutait en 2011, un seul titre remporté comme en 2013. Un seul titre, à savoir le championnat de France, pas de coupe, alors que depuis 2015, le PSG soulevait constamment les deux coupes nationales, Hervé Penaud. Et, Neym le rappelait, le club national s'est une nouvelle fois écroulé dans le déshonneur sur la scène européenne.
J'irai pas jusqu'à dire la pire, parce que je pense que les pertes de titres, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Sur 38 journées, vous êtes le PSG, vous devez être devant. Monaco les a battus, Montpellier. Alors Montpellier, c'est une autre époque.
2012-2017, c'est une demi-saison.
C'est un petit peu différent. Mais effectivement, l'année, alors c'est vrai que Monaco a été exceptionnel, mais il n'empêche qu'à un moment, vous perdez le titre. Et là-dessus, sur 38 journées, parce que sur une finale de coupe, vous pouvez tout à fait perdre contre Rennes. Qu'est-ce qui empêche Rennes de battre Paris Saint-Germain? C'est l'échec de trop.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais sur le contexte, si tu prends tout ce qui accompagne cette finale depuis un mois et demi, deux mois, ils peuvent pas la perdre. Moi, pour moi, c'est terrible. Parce que vous avez vous perdez contre le Monaco de 2017. Vous perdez contre Lille. À la rigueur, la défaite, sur un match, Hervé l'a raison, vous jouez Lille, vous jouez le Monaco de 2017, vous la perdez. Mais sur ce Rennes-là, qui n'a pas gagné depuis deux mois en championnat, et dont le PSG est 10-15 fois supérieur, non. Et c'était pareil en quart contre Guingamp, et c'était pareil contre Manchester United.
Et c'est pas comme s'il n'y avait pas eu d'avertissement dans la saison.
En plus, mais oui.
Parce que ça veut dire qu'aucun enseignement n'a été tiré. Hein, des éliminations contre Guingamp, contre Manchester.
Quel enseignement aurait-il fallu tirer? Ça touche les joueurs, les dirigeants, le coach.
On voit bien qu'il y a un problème de management et qu'il y a un problème de cohésion de l'équipe. Cette équipe est complètement coupée entre un certain nombre de cadres et des jeunes qui n'ont pas l'expérience.
Alors là, vous revenez sur les propos de Neymar qui
cible
les jeunes.
C'est pas ça qui les fait perdre. Mais c'est vrai que cette équipe est déséquilibrée.
Quand Neymar parle des jeunes en question, que les jeunes qui parlent trop et qui devraient plus écouter, il fait référence à qui? Est-ce qu'il fait référence à son copain Mbappé? Je crois pas. Il fait référence à qui? Il fait référence à Dagba, il fait référence à Diaby, à Kimpembe. Kimpembe peut-être, mais est-ce que ces joueurs-là pèsent vraiment dans la saison du PSG?
J'allais vous demander. Alors Kimpembe, il marque un but contre son camp, il est champion du monde.
Kimpembe rate sa saison. Kimpembe, il rate sa saison. Le PSG rate sa saison. Et moi, je vais le dire très clairement. Aujourd'hui, le PSG est en crise. Quand vous perdez 3 titres, comme vous venez de les perdre face à des adversaires comme ça.
C'est la manière surtout.
Et que vous avez 500 millions d'euros de budget, vous n'avez pas le droit de perdre comme ça. Absolument pas, non seulement en termes de résultats, mais en termes de manière. Donc le PSG aujourd'hui, il est en crise. Moi, je veux bien que Neymar, il attribue des responsabilités. Mais Neymar, sa saison PSG, c'est quoi? D'abord, c'est une demi-saison. C'est des prestations qui ont été bonnes, mais face à des adversaires largement à sa portée. Il a raté sur blessure les matchs importants. On a encore retrouvé cette espèce de fausse communication autour.
Il a été quand même très bon autour avant sa blessure.
Avant sa blessure.
Mais
sur quel match? Sur quel match? Sur quel match?
Couteau et répondre. Oui, et encore, ça a été certainement le meilleur Parisien encore sur cette finale. Ce qui est entre sa passe sur le corner plus son but, il y a absolument rien à dire.
Mais un mauvais geste en fin de match, c'est peut-être anecdotique, mais au moment où il va chercher sa médaille.
Non, mais c'est pas
un spectateur qui l'a chambré.
Vous dire une chose, je trouve que c'est plutôt positif pour le Paris Saint-Germain. Parce que ça veut quand même dire qu'ils ne s'en moquaient pas. Quand vous avez vu la tête qu'il faisait après la défaite, c'est quelqu'un qui a tout gagné quasiment. Et d'un seul coup, perdre une finale contre Rennes, vous pourriez vous imaginer, oh, c'est Rennes, c'est pas très grave, une Coupe de France, qu'est-ce que t'en vas faire sur un palmarès? Mais il avait vous aviez l'impression qu'il avait perdu la finale de la Coupe du Monde. Donc quand il monte à la tribune et que vous avez un type qui vient insulter chaque joueur les uns après les autres, bah, au bout d'un moment, vous pouvez aussi avoir un petit peu être énervé. Donc moi, ça me choque pas plus que ça.
Alors, on va se projeter sur la saison prochaine. Neymar, toujours tête de gondole du projet. Est-ce que c'est du côté des joueurs? Est-ce que c'est du côté du coach ou des dirigeants qu'il faut aller chercher du changement, non, des responsables?
Le changement et le responsable, c'est à un moment donné, on va reprendre le débat qu'on a eu après Manchester. Qu'est-ce qui n'a pas changé à Paris sur l'ensemble des dernières années?
Nasser.
C'est Nasser, mais voilà, c'est le Qatar. C'est ça, en fait, t'as changé les directeurs sportifs, t'as changé les entraîneurs, t'as quand même changé une partie des joueurs. Non seulement tu as les mêmes problèmes qui se répètent, tu n'as pas tiré de solution et parfois ça s'aggrave même. Donc c'est-à-dire que c'est une atmosphère de travail. C'est l'atmosphère dans laquelle le PSG est baigné toute l'année, toute la saison, les choix, la politique qui est mise en place, qui fait que t'as la remontada, que t'as Manchester United, que t'as Rennes, que t'as Guingamp. C'est ça qu'il faut changer. Maintenant, on sait très bien que l'émir, il va pas se désengager, on sait très bien qu'il va pas virer Nasser parce que c'est quasiment son fils. Donc il va voilà. On va encore attribuer des responsabilités, on va vendre 5, 6, 7 joueurs en disant « Ah c'est bon, on a viré cela, on en a pris d'autres. » On va changer un mec dans l'organigramme, peut-être qu'on va adjoindre quelqu'un à Antero pour faire le tampon avec Tourelle, et après, ça ne changera pas.
Vous aviez une théorie, je révèle nos secrets. Pour vous, le responsable de la déroute de samedi, il n'était même pas sur le terrain, mais il joue un rôle important au sein du club.
Alors, effectivement, mais je vais développer un tout petit peu, on ne peut pas avoir dans un club un entraîneur et un directeur sportif qui ne sont pas d'accord sur la politique de recrutement. Déjà, ça me paraît pas du tout conciliable. Donc ça, tant qu'il y aura ça, ça va être très ennuyeux. Ensuite, il faut un relais, en effet, sur le terrain, de l'entraîneur, qui soit un capitaine, qui puisse tirer l'équipe vers le haut. Il a été là pendant un moment, c'était pas le capitaine, mais c'était Ibrahimovic, qui, qu'on le veuille ou non, par son attitude, mettait une pression sur les adversaires, sur ses partenaires, mais tirait l'équipe vers le haut. Et aujourd'hui, Thiago Silva, bon, qui n'est pas responsable de la défaite hier, puis qui n'est pas là, mais n'assume pas ce rôle-là. Il est monstro, il est au monstro comme on veut, il est très bon, mais ce n'est pas un gagneur.
Tu peux le dire en Coupe d'Europe, mais pas en Coupe de France.
Oui, non, mais il n'était pas sur le terrain hier, enfin samedi, donc de toute façon, concerne pas ce match-là.
Voilà.
Mais au long cours, sur la durée, sur plusieurs années, je pense que Thiago Silva a une personnalité un peu... Il n'a pas ce caractère qui tire l'équipe vers le haut.
Faut faire attention aussi à ne pas tout remettre en cause sur ce qui a été fait avec le Paris Saint-Germain. Parce que l'histoire des coupes, ils ont tout gagné jusqu'à présent. C'est la première année où il y a ces échecs-là. Donc jusqu'à présent, ça se passait bien. Il ne faut pas non plus noircir complètement le tableau. Ce qui n'allait pas, c'était la Ligue des Champions.
Alors est-ce qu'il avance le PSG ou est-ce qu'il régresse?
Par rapport à cette saison, de fait, il régresse. Sur cette saison-là, il a régressé. Mais surtout, on nous avait expliqué que Tuchel allait amener ce qui manquait justement à Paris. Et finalement, il n'a pas pu l'apporter. Et on le sent lui-même, je suis tout à fait d'accord, un peu nerveux, un peu.
Frustré.
Comment gérer prochaine?
La question mérite de se poser, sincèrement.
À partir du moment où vous avez José Mourinho qui est sur le marché, que le Qatar rêvait de José Mourinho, malheureusement, j'ai jamais pu le faire parce que le problème des entraîneurs, c'est qu'à un moment, il faut être libre. Il est libre. Donc j'ai toujours la sensation, vous savez, que quand vous pensez à quelque chose il y a 3-4 ans, si vous êtes persuadé que c'est la bonne solution et qu'elle se présente, ben vous avez tendance à la tester.
Piste à creuser. Le mot de la fin sur le PSG, Naïm, rapidement.
Le PSG est en crise, on nous explique depuis des années que quand il a un échec, il va tirer les conséquences, il ne les tire pas, on attend.
PSG qui doit jouer en Ligue 1 dès demain, alors ça c'est une petite curiosité, mais il n'a pas pu jouer ce week-end.
Il rattrape
son match, mais c'est assez tôt quand même, dès le mardi qui suit, c'est en tout cas ce dont s'est plaint Thomas Tuchel, il se plaint beaucoup. Mais
c'est juste bizarre de faire une finale de coupe à un moment pendant qu'il y a une journée de Ligue 1.
Et justement, la transition est toute trouvée, une grande partie de cette 34e journée de Ligue 1 se disputait en parallèle de la finale de la Coupe de France.
Oh, qu'il est beau! Super centre de Campos!
Elle est magnifique.
qu'il est rentré. Attention, la montre. La montre de l'arbitre.
Et oui, dit qu'il est rentré, monsieur Hamel. Abouma avec Kasri. Abouma qui lance Kasri dans le mouvement pour Robert Berić. Pour un ballon de 2 à 0. Le doublé de Robert Berić. Saint-Etienne mène 2 à 0.
20e but pour Nicolas Pépé.
Luis Arojo, la frappe finale de Ruffo. Et c'est jour de première.
Pas mal de choses à dire sur cette 34e journée à peu près jouée en intégralité. Simplement, et là, je vais vous demander un peu d'aide. Je sais pas qui veut s'y coller pour cette explication un petit peu technique. Dire que la finale de la Coupe de France, elle a un impact sur la course à l'Europe en Ligue 1. Quelqu'un veut se lancer dans cette explication technique, sinon je vais endormir tout.
Non, mais tout simplement parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la 5e place, puisque Rennes a remporté la Coupe de France, la 5e place n'est plus européenne. Donc, il n'y a plus que 3 places. La 2e étant quasiment dévolue à Lille. Il reste 3 équipes pour une place.
Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, Marseille, 5e, à 5 points de Saint-Etienne, n'est pas européen. Marseille qui s'est incliné hier soir 2-1 à domicile face à Nantes. Bon, on va rééquilibrer l'émission en disant un peu de mal des Marseillais, j'imagine, mon cher Daniel.
C'est quoi, la dernière fois qu'on en a dit du bien. Faudrait retrouver ça. Ouais. Non, mais on a retrouvé le mauvais Marseille, le Marseille énervant, frustrant, qui tient un match, puis qui finalement le laisse filer, qui se fait avoir à domicile en plus, qui est impardonnable, parce que quand on voit leur résultat à l'extérieur, c'est comme le minimum d'assurer un peu à domicile. Et puis, vous l'avez dit, il lâche des points dans la course à l'Europe, et puis on retrouve le mauvais Balotelli qui va marquer un but, mais qui est pas bon dans le jeu, et puis on va retrouver un peu les erreurs défensives, puis on va retrouver un petit peu les mauvais choix avec le ballon, on va retrouver tout ce qui a énervé avec Marseille cette saison, et puis face à Nantes, moi je veux bien, Nantes c'est sur une super dynamique, hein. Ils ont fait Paris, ils ont fait Lyon, machin. Si vous comparez les deux effectifs, et en qui plus est, je le répète, au Vélodrome, normalement Marseille doit passer, ils se sont encore tiré une balle dans le pied, voilà, bien fait pour eux.
C'est quoi, c'est la défaite de trop, la contre-performance de trop, quand vous n'êtes pas capable de gagner devant votre public face à Nantes à quelques journées
combien ça dit
tout. Autant de pas y aller.
Ça dit tout, parce qu'ils avaient vraiment leur destin entre les mains. Sur ce match-là, quasi, ils pouvaient souffrir une fin de saison haletante et aller chercher cette Europe qui est quand même possible pour eux.
Bah oui, parce qu'ils ont davantage fait pour l'Europe que Saint-Etienne. Parce que, si tu regardes les effectifs,
parce que si,
tout ça,
si quand même... en plus, s'il y a un résultat logique pour la finale de la Coupe de France, ils ont toutes les chances d'y aller, quand même. Et là, ils n'y iront pas. Et puis, d'une certaine façon.
Encore, on sait jamais.
Ouais, c'est pas fini, mais c'est quand même, ça fait un gros coup sur la calebasse, quand même. Et puis, par ailleurs, il y a un peu les mêmes causes, mêmes effets qu'au PSG, d'une certaine façon, de proportion gardée, parce que, on a un propriétaire qui qu'on sait pas trop ce qu'il fait là, s'il est venu faire de l'immobilier ou du foot ou de la notoriété ou du pouvoir. On a un
président qui communique de manière très étrange.
Qui est assez décalé par rapport à son équipe au milieu du foot. Un directeur sportif dont on dit qu'il va bientôt s'en aller et un entraîneur qui a l'air
qui
un
est
peu
aussi sur le départ.
Ouais, qui est aussi sur le départ ou en tout cas un peu désarmé avec ses joueurs. Donc effectivement, tout ça contribue pas à faire du beau foot. Quoi.
Vous y croyez encore, Hervé Penaud? On rappelle que dans deux journées, Marseille reçoit Lyon. Lyon troisième, ça aurait pu être une finale pour le podium.
Là, le problème, c'est qu'ils sont un peu loin.
C'était une finale.
Ils sont un peu loin. Alors, faudra voir le résultat de Lyon contre Lille au week-end prochain. Sait-on jamais si Lille venait à s'imposer à Lyon, mettre une pression sur Lyon, qui est pas non plus une équipe qui a des épaules très 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 larges. Mais là, c'est l'échec quand même, l'échec d'une politique. Et surtout, c'est que là, faut voir l'après. Il y avait le Champions Project, qui était une obligation quasiment d'être en Ligue des Champions chaque fois. Là, on vous parle même plus de l'Europa League, on parle de rien du tout. Mais c'est un club qui a déjà des difficultés financières, qui va être un peu retoqué par le fair play financier. Donc, ils vont faire quoi? Ça, c'est un vrai souci. Les joueurs sont très chers.
Ils vont faire ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, c'est qu'ils vont laisser partir la plupart de leurs gros salaires pour pouvoir rééquilibrer leurs comptes. Ils vont tenter des coups en termes de mercato. Sauf que comme tu sais pas qui va entraîner, qui sera le directeur sportif, avec quelle politique tu arrives, tu vas en avoir 6 ou 7 qui vont arriver et seulement 2 ou 3 qui vont être au niveau.
Et malheureusement,
ça va prendre 6 mois.
Et l'argent qu'ils vont récupérer des gros salaires, qui vont partir, il va pas être énorme. Parce que quand on sait qu'un club il est pendu comme ça, en général, on attend le dernier moment pour lui donner peu. Il n'y a pas de raison d'aller donner 25 millions pour Thauvin ou 30 millions. Si vous savez que Thauvin, de toute façon, ils sont obligés de le vendre.
En revanche, tout va bien pour Saint-Etienne. Donc, 4e, victoire 2-0 face à Toulouse. Avec un pénalty raté de Max-Alain Gradel, repoussé par Ruffier. Saint-Etienne.
Ce qui aurait pu tout changer.
Avec un Kasri très très bon. Une nouvelle fois, c'est les voyants sont au vert. Oui. Désolé, Frédéric Lafasse.
Et puis surtout, c'est quand même la lutte entre dans le fameux derby entre Lyon et Saint-Etienne. Ils sont, il n'y a qu'un match d'écart. Et il faut se rendre compte ce que ça ce serait pour Lyon de sortir de la Ligue des Champions et remplacer par Saint-Etienne. Enfin, remplacer, ou en tout cas potentiellement remplacer, s'il y a les deux tours qualificatifs à remporter avant d'aller en Ligue des Champions, si une équipe qui fait la Ligue des Champions dans les autres championnats ne gagne pas la Ligue Europa. Donc ça veut dire qu'il y a... Il y a quand même, là, ce serait vraiment un énorme coup, mais je pense que si Gradel réussit ce pénalty, je ne sais pas ce qui se passe sur la fin de match, parce que je trouve un Saint-Etienne en difficulté à ce moment-là.
Saint-Etienne, c'est par rapport à Marseille et Lyon, c'est comme une équipe qui a un effectif nettement inférieur en termes de nombre, en termes de qualité de joueurs.
Oui, mais beaucoup plus homogène.
Beaucoup plus homogène, mais tu as quand même moins de joueurs, tu vois. Tu perds Kazri, alors bon, c'est pas un bon exemple parce que Beric se remet à marquer des buts, mais si tu perds Kazri devant, tu as quand même, t'entends plus de ton secteur offensif, de son atout majeur, et tu as vraiment personne
pour
passer.
Il y a moins d'écart entre les joueurs qui sont un truc, sur le banc. Enfin,
c'est un truc que ne font pas, alors que ne fait pas Marseille et moins Lyon, c'est qu'ils arrivent à faire des séries, c'est-à-dire que c'est pas ils ont pas un effectif de fou, ils ont pas un jeu de fou, mais ils arrivent à pas perdre, ils arrivent à accumuler les points comme ça, ils perdent toutes leurs confrontations directes, ils perdent les deux derbies contre Lyon, ils font une victoire, mais ils arrivent justement derrière à enchaîner les victoires et à recoller, parce que Saint-Etienne qui se mêle à la lutte pour l'Europe, ça date pas du mois de décembre, hein. c'est le mois dernier, ça commence il y a à peu près 4-5 semaines, donc ils arrivent vraiment à talonner, et ça c'est à mettre à leur crédit, parce que sur cette fin de saison, ce qui compte c'est le sprint final, c'est faire des séries. Si c'est la seule équipe qui arrive à faire une série, elle ira, hein, y a pas de souci.
Saint-Etienne a 3 points du rival Lyon, 3e, succès 3-2 de Lyon vendredi à Bordeaux. Jean-Philippe Bouchard avec notamment une réalisation au passage de l'Ivoirien Maxwell Cornet. Ça tient Lyon, il y a un test, Hervé en parlait, qui se profile contre Lille le deuxième. Vous pensez les Lyonnais capables de conserver leur place sur le podium?
Tout dépendra de cette espèce de finale pour la Ligue des Champions face à Lille. C'est-à-dire que c'est là que ça peut jouer.
Il y aura un match à Rennes, attention.
Je pense que Rennes sera plus à leur portée. Mais ce qui est intéressant pour revenir à Saint-Etienne, c'est qu'effectivement, ils sont sur une dynamique très favorable. Et surtout, ils ont... par leur cohérence en fait managériale, et enfin il faut rendre hommage quand même à Jean-Louis Gasset, hein, qui est quand même un entraîneur expérimenté, qui fait pas de sorties intempestives, qui se met pas en
avant. Ancien du PSG également.
C'est quelqu'un qui cherche pas la lumière, il peut très bien se satisfaire d'être adjoint. Il a une grande compétence, une grande expérience du foot, et il sait tirer le maximum de son effectif. Et ça, c'est intéressant, parce que il les fait pas rêver en leur disant qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. C'est pas ça le but. Mais par contre, ils sont là et ils arrivent à surperformer, pour prendre un mot à la mode, par rapport à...
Vous êtes très à la mode, hein.
Par rapport au budget du club, par rapport au niveau sur le papier, à la valeur sur le papier des joueurs, bah, franchement, c'est une belle saison pour
Saint-Etienne. C'est pas très joli, surperformer, vous, l'homme. Non, c'est de l'être. Mais c'est vrai que
C'est un clin d'œil au lecteur de l'équipe qui le voit souvent dans les papiers sur Saint-Etienne.
Bon, on va pas dire du mal d'un journal dans lequel travaille l'homme qui se trouve à ma gauche, Hervé Penaud. Lyon, je reviens à Lyon.
C'est une modernité.
Effectivement, Lyon, 3-2, ça tient. Il y a Lille, il y a Marseille.
Franchement, pour suivre Lyon depuis le début de la saison, puis depuis 2 ans, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, parce que c'est une équipe qui est en dents de scie, et surtout c'est une équipe qui manque de caractère. Là, à Bordeaux, ils font un début de match de très très haut niveau. C'était impressionnant. Après, Bordeaux met 2 buts et d'un seul coup, tout s'écroule. Et s'il n'y a pas une erreur de Pungé, je ne suis même pas sûr qu'il gagne ce match-là. Donc, ça veut dire que tout peut se passer contre Lille. Ils font un début de match du même Akabi, par exemple, et ils marquent, parce que le gros problème de Lyon, moi, je pense, sur cette saison, c'est qu'ils ont raté beaucoup, beaucoup trop d'occasions. En dehors des erreurs défensives, tout ce que vous voulez, sur les mêmes matchs, l'année dernière, les joueurs offensifs étaient beaucoup plus performants. Cette année, les mêmes occasions, ils ne les mettent pas et ça change tout.
Je pense que la grande différence entre quand on parlait de Saint-Etienne et on va parler de Lille, Lyon, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de dimension collective. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Il y a des individualités qui vont à un moment donné ou pas tirer l'équipe vers le haut, faire des prestations qui vont permettre de gagner, de marquer des buts, de ramener des points. Mais collectivement, on ne va faut
ça
pas rêver.
Matchs,
non, mais il ne faut pas rêver à un moment donné. On ne va pas voir sur les 4 dernières journées ce qu'on n'a pas vu sur les 34 précédentes. Quand vous n'avez pas de lien collectif, quand vous n'avez pas de leader, très difficile de faire des résultats.
Alors, on disait que Lyon allait affronter Lille. Dans 2 journées, Saint-Etienne affrontera Montpellier, un autre prétendant à l'Europe. Il y aura aussi Monaco pour les Verts. Donc, les calendriers sont difficiles pour les deux équipes. La deuxième place, pour l'instant, c'est celle de Lille qui s'y accroche avec la manière, de manière spectaculaire. 5 points d'avance sur Lyon pour le LOSC qui en met 5 dès qu'on vient le voir. Notamment grâce à Nicolas Pépé, succès 5-0 contre Nîmes ce dimanche avec la 20e 20e réalisation de l'Ivoirien Nicolas Pépé. Que dire qui n'est pas déjà été dit sur Nicolas Pépé? 20 réalisations en tout cette saison, 12 passes décisives, toutes compétitions confondues.
C'est lui qui tire l'équipe vers le haut, ça y a aucun doute. Hein. Si Lille en est là, elle peut dire un grand merci à d'autres joueurs qui ont été importants, évidemment, mais à Nicolas Pépé, parce que je me souviens toujours ce que disait Deschamps, hein. Pour faire des jeux une grosse équipe, il faut un grand gardien, un grand attaquant. Vous avez le grand gardien avec Maignan, qui fait une saison fabuleuse, et vous avez le grand attaquant. Donc après, le reste, évidemment, il faut construire avec un entraîneur en plus de qui a un gros potentiel, qui connaît le très haut niveau. Ben voilà, vous arrivez à faire une équipe comme ça, une équipe de contre, qui a eu la chance de jouer qu'un seul championnat cette année, contrairement aux autres. Parce que s'il y avait eu des coupes, des choses comme ça, je ne sais pas s'ils auraient pu garder cet effectif intact. Des super coups de mercato, et c'est là où il faut dire bravo à Campos, parce que là, franchement, il a senti son équipe comme peu de recruteurs peuvent le faire. Il savait qu'il fallait de l'expérience derrière, il a pris Fonte. Même Loïc Rémy, qui fait pas une grosse saison, c'est moins qu'on puisse dire. Il n'empêche que
là, il a ouvert la marque.
C'est vrai, ça a été quand même utile sur l'ensemble de la saison. Et à côté de ça, les petits trous qu'il avait, il a réussi à les combler. Chapeau.
Il faut en profiter de cette équipe de Lille, puisque oui. ces joueurs les plus séduisants, on les reverra peut-être pas.
Ah bah, ça a été annoncé au départ, hein, de toute façon. Non, hein. Le projet Lillois, c'était de valoriser les joueurs le plus possible pour faire du trading de joueurs. Donc,
ceci dit, ils vont gagner de l'argent, pouvoir en recruter d'autres. C'est marrant parce que je suis d'accord pour dire que sans Pépé, Lille aurait peut-être pas eu les mêmes résultats, elle a ramené énormément de points. Mais je trouve quand même que cette équipe de Lille, s'il y a bien quelque chose qui tranche par rapport à Lyon, c'est que collectivement, il y a du talent partout. Ils sont tous complémentaires. Alors évidemment, il y a Pépé, il y a Bamba Ikoné, mais Tcheka, Léao, vous prenez Fonte, vous prenez Maignan, vous prenez leur latéraux, c'est quand même perdu Balotouré, faut pas l'oublier. Et que c'est une équipe très très forte dans tous les secteurs de jeu. Tout à l'heure, Hervé parlait du Monaco de 2017 qui était un super niveau. Si t'as pas le pari des Qataris, si t'as pas ce... Lille, ils ont un train de vie de champion. Ils sont sur le podium depuis la 20e journée, ils sont au-dessus. Donc si t'as pas ce PSG-là en nombre de points, c'est une équipe qui pourrait être championne. Moi, je les trouve super forts. Et j'ai l'impression que rien ne peut les avoir. Même si derrière, ils prennent un but casquette, ils vont en marquer deux. Même s'ils ratent une occasion, t'en as un qui, même si Pépé marque pas, t'en as un qui va prendre la truc. T'en as toujours un pour venir aider, surperformer, compenser le travail de l'autre. Ils sont pas là par hasard. Ça, en Ligue 1, on peut dire ce qu'on veut sur le niveau de la Ligue 1. Si à 4 journées de la fin, vous êtes deuxième avec autant de points, c'est que vous avez été très bon.
Voilà, je crois qu'on a été, non pas complet, mais on a dit beaucoup de choses.
On a été
tout
très
ce qu'il
bon,
y avait à dire.
Comme Lille,
on a été Lille
français. Il y a un petit clin d'œil, c'est qu'il y a un an et demi. Il y a un an et demi, quand Lille se sépare de Bielsa, grosso modo, l'opinion publique trouve que c'est dommage, quoi. Bielsa qui
Lopez,
aujourd'hui.
Lopez était un escroc, il était nul.
Et Campos, enfin voilà, l'espèce de courant qui passait pas entre Campos et Bielsa. Enfin, l'opinion publique avait un peu choisi son camp. Les faits, aujourd'hui, nous obligent à constater que Campos a fait quand même du bon boulot.
Tout va très vite, c'est comme ça qu'on dit, dans le monde du.
Tout va très vite. L'humilité, c'est très important.
L'humilité importante dans le football. En France, comme en Afrique, justement, on prend la direction du continent. Cédric de Oliveira nous a rejoint. Bonjour mon cher Cédric.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Alors on vous a entendu tout le week-end sur RFI dans Mondial Sport, notamment avec Christophe Jousset, pour nous parler de l'actualité du football sur le continent. Le fait le plus important probablement, c'est le sacre continental du Cameroun, champion d'Afrique chez les grands, champion d'Afrique en titre désormais chez les moins de 17 ans également.
Oui, alors ça s'est joué à pas grand-chose, hein, au tir au but pour être précis, comme en demi-finale d'ailleurs pour les deux équipe, puisque c'est le Cameroun qui a été le plus fort après une finale étriquée donc face à la Guinée où aucune des deux équipes n'a réussi à marquer. 0-0 au bout des 90 minutes puisqu'il n'y a pas de prolongation chez les moins de 17 ans, on est directement allé au tir au but pour des Lyonceaux, donc sacré pour la première fois dans la catégorie depuis 2003.
Un titre qu'on peut dire logique, c'est en tout cas l'avis du manager de toutes les équipes camerounaises, Lucien Metomo. Un ancien Lyon indomptable,
absolument,
et qui considère que ce titre est de bon augure, annonce de belles choses pour le Cameroun.
De jeunes qui performent comme celles que nous avons aujourd'hui, si cette équipe-là, on donne des moyens et que les gamins arrivent à se retrouver dans les structures, pourquoi pas professionnelles, sans doute que l'équipe A ne pourra que bénéficier de l'apport de ces gamins-là. Nous pensons que dans les mois à venir, les années à venir, c'est ce que nous leur souhaitons. Le Cameroun regorge de beaucoup, beaucoup de talents qui ne demandent simplement qu'à être mieux encadrés.
Hervé Penaud, vous êtes d'accord avec Lucien Metomo, quand on gagne chez les jeunes, c'est forcément de bon augure pour la suite. L'histoire n'a pas toujours, c'est pas toujours vérifié par le passé.
La logique voudrait ça, mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il va falloir maintenant que ces jeunes-là continuent à travailler, trouvent des structures d'entraînement de bon niveau, après partent dans des clubs qui leur laissent leur chance, et puis qu'ils s'aguerrissent au contact de joueurs un peu plus performants, qui découvrent d'autres footballs, et puis on verra un peu ce que fera ce Cameroun-là. Mais ce qui est certain pour le Cameroun, c'est quand même une victoire capitale, très importante. Ils n'étaient pas favoris avant le début de la compétition, loin de là. Et ils ont vraiment fait une épreuve à la camerounaise, hein, j'allais dire. Solide, costaud, physiquement très très impressionnant.
3-0 consécutif.
Voilà, ils ont pas marqué énormément de buts, mais c'était du solide. Quoi.
Justement, Cédric, peut-être nous rafraîchir la mémoire sur le parcours, ce qu'ont vécu les Lions indomptables sur et en dehors du terrain durant cette CAN des moins de 17 ans.
Alors, on rappelle donc que le Cameroun avait terminé la phase de poulain vaincu, effectivement, Hervé le disait, solide. Le Cameroun qui a notamment battu la Guinée 2-0 avant donc de l'emporter en demi-finale et en finale au tir au but. Voilà, il y avait 0-0, mais les Camerounais ont su rester les meilleurs dans cette séance de tir au but. Compétition marquée pour les Camerounais par aussi des doutes par rapport à sa sélection, de nouveaux soupçons de fraude sur l'âge de certains joueurs qui auraient falsifié leur passeport. Le Maroc notamment s'est montré particulièrement virulent. La CAF, elle, a considéré que l'équipe était en règle. Selon plusieurs tests IRM, il y a eu le même genre de requête de la part du Sénégal concernant deux joueurs de la Guinée. Voilà, c'est assez récurrent lors de ces compétitions de jeunes en Afrique.
Oui, malheureusement.
Mais ils avaient perdu trois joueurs avant le début de la compétition, le Cameroun.
Ouais,
trois joueurs, justement, pour ces raisons-là. Mais bon, c'est vrai que ça a été un peu ça a entretenu de ces deux semaines en Tanzanie, entre effectivement la fédération marocaine qui critiquait un peu l'âge de certains joueurs, l'histoire de la Guinée avec deux joueurs qui auraient eu des passeports différents lors d'un tournoi au Japon. Bon, il va falloir faire un petit peu le ménage, évidemment, dans la maison CAF. Et ça va être important. En mettant, je pense que pour la CAF, ce qu'il va falloir faire, c'est que dans chaque pays, chaque fédération développe aussi des U11, des U13. C'est-à-dire, quand vous commencez avec des jeunes comme ça, et ben, une fois que c'est fait, une fois que vous êtes enregistré, c'est terminé. Il n'y a pas de grande différence.
Le Cameroun, évidemment, vainqueur de la CAN des moins de 17 ans, donc qualifié pour la Coupe du Monde de la catégorie, Cédric.
Oui, ce sera en octobre, au Brésil. La Guinée finaliste, mais aussi l'Angola 3e et le Nigeria 4e l'accompagneront.
Hervé Penaud, là je me tourne une nouvelle fois vers vous. C'est le show Penaud, hein,
je vous donne la parole.
Un dernier mot, parce que vous y êtes allé en Tanzanie pour suivre une partie de la CAN des moins de 17 ans. La Tanzanie qui accueille une compétition de football, c'est pas forcément habituel. Un mot sur l'organisation.
L'organisation s'est très bien passée, mais vous n'alliez pas être non plus ennuyé par la foule. Parce que franchement, malheureusement, un stade qui contient 60 000 personnes quand vous avez quasiment personne. Alors qu'il y avait le deuxième stade du pays qui était quasiment plein pour les deux matchs. Un petit stade de 8-10 000 places. C'était très, 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 très sympa, très bonne ambiance. Donc, à l'avenir, il va falloir faire attention. Parce que c'est vrai que si le pays organisateur n'est pas en finale, même en demi-finale, ça devient compliqué de remplir des stades de 60 000 places. Faut être logique.
Cédric de Libéral, l'actualité du football africain ce week-end. C'était aussi les demi-finales de la Ligue des Champions. Déception pour les Congolais du tout-puissant Mazembe.
Ben oui, c'est mal parti pour le club congolais en demi-finale, puisqu'ils ont perdu cette demi-finale aller. Ils sont tombés sur une très solide équipe de l'Espérance de Tunis. Une victoire 1-0 grâce à un but de Youssef Belaïli. Succès logique des espérantistes. Match maîtrisé. Ils auraient pu se mettre à l'abri d'ailleurs lors de ce match aller, puisque il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions pour les Tunisiens. Tout reste possible pour le TP Mazembe, qui aura la possibilité d'inverser la tendance. Ce sera samedi prochain à Lubumbashi.
Et on peut entendre l'attaquant malien du tout-puissant Mazembe, Abdoulaye Sissoko.
Ça a été un match costaud physique. On a su faire le jeu du premier mi-temps. Mais après, déjà mi-temps, c'était un peu compliqué parce que l'Espérance a mis plus de profondeur et plus de vitesse. Donc, il nous a causé pas mal de problèmes. Quand même, je pense que le score est jouable à domicile. C'est le premier match, donc il y a le deuxième match à domicile. Donc, on fera tout pour réparer ce qui nous a manqué aujourd'hui. Rien n'est joué pour l'instant, donc on va se concentrer pour le match retour.
Franchement,
qu'est-ce qui se passe?
C'est ma réflexion depuis quelques semaines. Je trouve que l'Espérance de Tunis a quand même des joueurs qui pourraient faire la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller chercher des joueurs qui évoluent en Europe un peu, parce que et compétition plus importante, d'un niveau supérieur, on joue des coupes d'Europe, tout ça.
Ouais, tu dis qu'il prend beaucoup de joueurs binationaux.
Je trouve qu'il y a quand même énormément de joueurs dans cette équipe d'Espérance de Tunis, qui pourraient faire la CAN. Moi, je trouve que c'est une belle équipe. Peut-être qu'elle ira pas au bout cette année, mais je trouve que
tenant du titre.
Puis je trouve que dans le jeu, c'est voilà, il y a eu eu beaucoup d'occasions ratées, c'est vrai, mais moi je trouve que c'est solide, je trouve que ça joue bien, je trouve que ça va vite, je trouve que ça va vers l'avant. C'est frais, moi j'aime bien.
Donc l'espérance qui peut réaliser le doublé 2018-2019 selon Naïmona, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, ah oui, bah, de toute façon, aujourd'hui ce sont les favoris, hein, faut quand même être logique. Ils font un parcours en Ligue des Champions de très haut niveau depuis le début, hein, même en poule ils n'ont pas perdu un match. Donc c'est vrai que c'est une équipe très très forte. Maintenant, faudra voir aussi de l'autre côté, hein, entre le WAC et
Ma Mélodie.
Et Ma Mélodie, c'est
le résultat, peut-être.
Il y a eu 2-1.
Oui, 2-1 pour les Marocains, ouais, match retour, donc, à Pretoria, samedi, rien n'est perdu, donc, pour les Sud-Africains qui pourraient se contenter d'une victoire 1-0, à noter quand même que ce dernier carré, se déroule entre habitués, puisque le TP a gagné en 2015, les Sud-Africains de Ma Mélodie en 2016, le Wydad Casablanca en 2017, et donc, l'Espérance de Tunis.
Alors, les 4 derniers vainqueurs,
mais comme la Ligue, en général, comme la Ligue des Champions européennes, sauf cette année, évidemment.
Bah avant, il y avait la domination d'Al Ahly, le club égyptien,
ouais,
mais là,
c'est corrigé l'an passé, enfin, en 2018,
mine de rien, tu peux avoir pour la première fois depuis, à mon avis, pas mal d'années, une finale sans club maghrébin. Parce que si t'as le TP, le Mamelodi, tu peux avoir une.
Alors, justement, si on revenait au TP Mazembe, vous les pensez capables d'inverser la tendance, bah, après avoir dit du bien, tant de bien
à domicile, de oui, parce qu'à domicile, ils peuvent le faire. Hein. C'est une équipe qui a quand même des qualités, le TP Mazembe, même si c'est moins bien depuis quelques années, qui domine moins la scène continentale, oui, ils ont quand même des grosses qualités.
Et puis un public très chaud.
Après, il faut pas non plus tout mettre. J'ai l'impression que cette équipe, à une époque, c'était 4, 5, 6 joueurs de très haut niveau. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si Mpoutou est moins bon... Il y a quand même pas grand monde pour
il y a quand même des bons joueurs.
Ouais, mais je trouve que le niveau collectif, et moi, on est plus sur des individualités qui peuvent faire la différence ou pas que sur un collectif comme il y a quelques années.
Pour les Corbeaux.
Ah oui, moi je pense qu'ils ont possibilité encore de renverser, même si l'Espérance c'est vraiment solide. En plus, c'est une équipe qui a l'habitude de voyager en Afrique. Il y a certaines équipes comme ça qui ont une habitude des bons résultats à l'extérieur, et c'est pas toujours facile, et c'est plutôt rare, j'allais dire, dans le football continental. Et l'Espérance, pour le coup, c'est le grand club. Hein. Derrière Al Ahly, c'est le deuxième plus grand club, je crois, qui avait été voté deuxième plus grand club de l'histoire du foot africain.
Très rapidement, mon cher Hervé, peut-être les autres très rapidement. Eric Bailly, l'Ivoirien blessé hier en championnat avec Manchester United face à Chelsea, et d'après son club, qui a communiqué tout à l'heure, il devrait rater la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, celui qui avait remporté l'édition 2015. Gros coup dur pour les éléphants.
Énorme coup dur pour les éléphants, ah oui, parce que lui c'est vraiment le pilier de la défense. Sur une faute, il tacle un joueur qui lui retombe sur le genou, on sent tout de suite que c'est grave. Malheureusement, lui était de l'aventure 2017, hein, quand il gagne la Coupe d'Afrique des Nations avec Hervé Renard. C'est vraiment un gros coup dur, et c'est aussi un coup dur d'une certaine manière pour Lyon.
Ouais.
Pour Lyon, parce que Lyon rêvait de récupérer.
Mais c'est un coup dur.
C'était très avancé, ça.
C'est un coup dur pour lui surtout, parce que j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment partie des plans de Manchester United la saison prochaine. Ouais. Donc il va être à vendre. Quel club va mettre de l'argent sur un joueur qui a une blessure comme ça? En tout cas, autant d'argent qu'ils en auraient mis il y a encore 3 semaines de ça.
Ça va réduire ses prix, peut-être.
Gros coup dur pour lui. Et pour la Côte d'Ivoire, et pour la
suite. Mais c'est un guerrier, hein, donc moi je le crois capable de revenir.
Mais c'est un violent coup d'arrêt à une carrière qui avait été super rapide et flamboyante ces 3-4 dernières années. Quoi.
Il a vécu une année difficile, en plus il était blessé en sélection, un coup à la tête.
C'est vraiment le point noir de la fin de sa saison. Quoi.
Merci Jean-Philippe Bouchard, Naïmoniel, Hervé Penaud, Cédric Delibera d'avoir participé à ce numéro de Radio Foot qui se poursuit évidemment toute la semaine avec, bien sûr, à la une demain et après-demain, les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Avant-match à 15h, temps universel, et puis on sera de retour en direct à 23h10, heure française, 21h10, temps universel. Très bonne soirée sur RFI.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.